7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir. Il est 8h45. Un plaisir de vous recevoir. Bonjour à tous ceux qui nous rejoindraient ce matin. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Je rappelle quand même à tout le monde que ce matin on a reçu des invités de marque quelque part, comme par exemple Charles-Henri Gallois. On a reçu également Julie Solveig qui a réalisé une enquête importante quand même, qu'on vous invitera tous à retrouver sur notre chaîne YouTube juste après cette matinale. Donc ça sortira je pense vers 10h. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, c'est une enquête sur le périscolaire parisien qui a été réalisée. Une enquête dans laquelle Julie Solveig a réussi à montrer quelque chose qui est tout à fait compliqué et étonnant. C'est quand même que la méthode de recrutement des animateurs à Paris, c'est du grand n'importe quoi, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est recruté, on ne sait pas comment les gens sont recrutés, on ne sait pas quelles sont les méthodes utilisées justement pour recruter. On sait que des casiers judiciaires parfois ne sont même pas consultés. Est-ce que vous avez écouté cette enquête?
Alors oui, je l'ai écouté, et puis encore une fois on voit bien que les rouages de ces recrutements absolument sordides et surtout pas du tout filtrés, hein, au final c'est ce qu'on observe, quoi. Enfin,
on recrute
un peu n'importe qui, quoi, donc voilà.
Mais merci, chers auditeurs, on vous invite à retrouver tout ça sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur YouTube si vous nous écoutez. Moi, je lis toujours le chat avec beaucoup d'attention. On a toujours de nouvelles personnes qui viennent. C'est toujours un plaisir de les accueillir. Balançons un jingle.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite.
Alors, Jean-Luc Gana devait nous rejoindre comme tous les matins, mais par un malheureux coup du sort, il s'avère que Jean-Luc Gana n'est pas venu. Voilà. Il a eu un empêchement de dernière minute, ce sont des choses qui arrivent. Cependant, ça nous donne l'occasion de parler de quelque chose qu'on a assez peu évoqué, qui, d'ailleurs, je pense qu'on traitera un petit peu plus largement dans les jours à venir. C'est, Alice Cordier en a touché un mot tout à l'heure, c'est le grand retour de Raphaël Arnaud.
Effectivement, comme vous l'avez dit Alexandre, c'est le grand retour de Raphaël Arnaud, hein, chers auditeurs. Vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux l'entretien qu'il a accordé à Blast, hein, vous savez, Blast, ce média bien à gauche qui a été tout à fait complaisant avec Raphaël Arnaud. Alors Raphaël Arnaud, pour rappel, est le fondateur de la Jeune Garde, qui n'est autre que l'association à laquelle appartiennent certains meurtriers de Quentin, ou en tout cas certains meurtriers présumés, disons, puisqu'ils ne sont pas encore condamnés, même si on n'a pas trop de doutes sur leur culpabilité. Et effectivement, il a essayé complètement de se racheter une image, de redorer son image, de se blanchir. Enfin, je ne sais pas vraiment
ce
quel est le terme.
Ce qui est fascinant quand même dans tout cet entretien, c'est qu'il parle un peu comme ça, parce que c'est très difficile,
qu'il
a vécu.
Plein.
Et honnêtement, ça a dû être difficile de vivre, effectivement, déjà avec le poids de la culpabilité de la mort de Quentin. Et puis, il a dû, effectivement... D'une certaine façon, même voir que trois de ses assistants parlementaires n'étaient plus à l'Assemblée, pour une raison simple, c'est qu'en fait ils sont actuellement tous mis en examen. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a ce côté larmoyant, mais à vomir quelque part, de Raphaël Arnaud. Ça fait un mois et demi qu'il n'est pas à l'Assemblée. On ne sait pas pour l'instant s'il aura une suspension sur salaire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que
5 953 euros, hein, il a perçu depuis le meurtre de Quentin,
euros.
N'étant pas à l'Assemblée, bien sûr. Donc on imagine qu'il a dû se retrouver avec une charge de travail absolument monumentale. On est presque à le plaindre, en fait. Franchement, on est presque à le plaindre. Donc, Raphaël Arnaud, c'est littéralement...
La pleurniche. Enfin, en fait, c'est vraiment...
Oui. Le ouin-ouin.
Exactement. C'est comme si je frappais quelqu'un et qu'après, j'avais pleuré en disant « Oh là là, c'est quand même terrible que cette personne soit fait frapper. » Bref, mais tout de suite, chers auditeurs, on va passer à autre chose, parce qu'on va retrouver Ludovine de La Rochère.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous poursuivons donc avec Ludovine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, bonjour, vous êtes par téléphone, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends parfaitement. Bonjour Alexandre.
Alors, aujourd'hui, eh bien écoutez, nous allons parler d'un sujet à nouveau, toujours en lien avec donc votre statut de présidente du syndicat de la famille. Un sujet qui est d'ailleurs complexe et très intéressant à la fois. Vous avez intitulé ça « Quand l'État prend la place des parents ».
Voilà. Alors, le rôle des parents est d'éduquer leur enfant avec amour, bien entendu, mais aussi avec exigence. L'objectif étant de l'aider à bien grandir et à devenir un adulte responsable, capable de mener sa barque. Mais dans sa toute-puissance, l'État estime qu'il sait mieux faire que les parents. À l'origine, c'était surtout pour faire des petits Français de bons citoyens nourris de valeurs républicaines. Et cela ne date pas d'hier, vous le savez, c'est en 1932 que le ministère de l'Instruction publique est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Et croyez-moi, ce n'était pas pour les beaux yeux des parents, et encore moins des parents catholiques. Là-dessus, le féminisme est passé par là, qui estime que les femmes doivent être des hommes comme les autres, et notamment mener carrière comme ces messieurs. Travailler à la maison ou travailler à temps partiel, rentrer tôt, prendre le mercredi ou les vacances scolaires, un scandale, vous dis-je, puisque cela conduit forcément à des inégalités salariales. Et si des mères souhaitent élever leurs enfants elles-mêmes, c'est qu'elles sont les victimes de stéréotypes de genre. Leur aspiration est donc illégitime. Forçons-les à être enfin égales aux hommes en menant une vie d'homme. À cela, s'est ajouté le déclin de notre économie, avec chômage de masse, hausse du coût de la vie, écherté du logement, merci Giscard d'Estaing, merci Mitterrand, et cela conduit toutes les femmes désormais à chercher un emploi, qu'il lui plaise ou non.
Oui.
Et de toute façon, prudence oblige, vu le taux de divorce et de séparation, mieux vaut prendre ces dispositions et prévoir le pire, bien sûr. Les mères n'ont donc d'autre choix que de travailler à l'extérieur en ne s'arrêtant que quelques petites semaines après la naissance de leur enfant. Alors certes, comme Marine Tondelier, qui annonce attendre un enfant après des années et des années d'attente, mais qui compte tout de même faire campagne pour la présidentielle, de nombreuses femmes aiment travailler en dehors du foyer. Mais on parle là de classes aisées, aux diplômes élevés, qui ont des jobs motivants. Or, ce n'est pas le cas de toutes, loin s'en faut. Et donc, père et mère travaillent désormais autant l'un que l'autre. Mmh. Le foyer familial est éteint, froid et désert, du lundi au vendredi, toute la journée.
Mais alors, qu'en est-il des 650 000 enfants qui naissent chaque année ?
Alors, aucun problème, l'État s'occupe de tout. Dès que l'enfant a 2 mois et demi de vie, il est pris en charge. Crèche ou assistante maternelle, puis école, cantine et périscolaire, complété de centres aérés pour les mercredis après-midi, et les vacances scolaires, l'État peut tout et tout le temps. Et les semaines entières, où tous les membres de la famille sont séparés les uns des autres, alternent avec des week-ends que les parents abordent épuisés et stressés. Alors ce sera le supermarché et les écrans la plupart du temps. Tout de même, avouons-le, cela laisse bien peu de disponibilité pour accompagner, éduquer et même voir tous ces petits riens de tous les jours qui sont en fait des pas de géant dans les apprentissages de son enfant.
Et alors justement, garder ses enfants, c'est une chose, mais les éduquer, c'en est une autre.
Alors qu'à cela ne tienne, l'État a ajouté à l'apprentissage des savoirs fondamentaux un tas d'enseignements éducatifs, en vrac, sauvetage de la planète et des espèces menacées, éducation alimentaire, éducation à l'hygiène, contrôle sanitaire, vaccination, sécurité routière, sécurité incendie, mais aussi éducation morale et civique, et encore éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la fameuse EVARS, au motif que les parents ne la font pas. Mais comment le pourraient-ils ?
Alors, si on se met à la place des enfants, peut-être que tout va bien pour eux.
Alors, bien des questions se posent en vérité. Comment supportent-ils le bruit permanent de la collectivité ? Apprécient-ils tous, toutes les personnes entre les mains desquelles ils passent ? Ces personnes exercent-elles leur choix, leur métier par choix ou à défaut d'autre chose ? Comment sont-elles recrutées et à la suite de quelle formation ? Autant de questions qu'il faut se poser quand on confie son enfant. Et d'ailleurs, et surtout, toutes ces personnes qui traversent la vie des enfants sont-elles en cohérence avec ce que les parents veulent leur transmettre ? Sont-elles les témoins qu'ils souhaitent sur leur chemin ? Et j'ajouterai une autre question. Est-on bien conscient du fait que les enfants sont des imitateurs, que tout adulte est pour eux un modèle et qu'ils sont aussi complètement vulnérables ? Enfin, question supplémentaire, estimons-nous vraiment, comme les progressistes semblent le croire, que nous vivons dans un monde de bisounours dans lequel tout le monde serait de bonne volonté, empli d'amour et d'empathie pour l'autre.
Ah, vous ne semblez pas y croire.
Alors non, en effet, et je pense à de tragiques affaires de violence et viol sur mineurs, comme en Lozère, où le référent éducation sexuelle nommé l'été dernier s'est révélé avoir été condamné pour pédocriminalité. À Nantes, où un assistant familial de l'aide sociale à l'enfance a été mis en examen pour viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs, ou encore au scandale du périscolaire à Paris. Alors ainsi, l'État, qui oblige tous les parents directement ou indirectement à lui confier leur enfant, a très gravement failli, et ce depuis des années.
Et alors, finalement, que s'est-il passé à Paris ?
Alors depuis 2016, des signalements de probables violences, sexuelles notamment, ont été régulièrement adressés par des parents aux responsables d'établissements où des enfants sont accueillis sur le temps périscolaire, alors notamment à l'école publique Saint-Dominique, mais dans d'autres également. Or, s'il semble que ces signalements sont plus ou moins remontés à la DASCO, la Direction des Affaires Sociales de la mairie de Paris, qui gère le périscolaire, rien n'a été fait pour sécuriser le recrutement des animateurs et pour renforcer les contrôles. Et ce scandale est finalement sorti au grand jour grâce à l'enquête de Cash Investigation, diffusée sur France 2 fin janvier 2026, soit au bout de 10 ans. Sans cela, la grande majorité des parents dont l'enfant a été concerné par des violences et des viols subis dès l'âge de 3 ans n'en auraient jamais rien su. Et tout ce qu'on trouvait à dire des responsables et certains médias, comme Mediapart, c'est que les difficultés de recrutement, le turnover des animateurs et le manque de moyens pour les contrôler en était la cause. Un discours insupportable. Le manque de moyens ne justifie absolument rien, bien évidemment. Ce drame, en revanche, renvoie à une question corollaire. L'État peut-il tout à la place des parents ? Peut-il remplacer tous les pères et les mères de France pour veiller sur les enfants et les éduquer ? La réponse est claire, c'est non.
Mais ces drames surviennent aussi dans les familles.
Certes, des familles sont dysfonctionnelles et des drames peuvent hélas survenir, mais ce n'est pas lié à la nature même de la famille. L'État, au contraire, n'est par nature ni aimant, ni protecteur, ni éducateur. Il peut instruire et encore. Pour autant, cela signifie-t-il que l'un des parents doit renoncer complètement à travailler à l'extérieur et rester à la maison pour veiller lui-même sur son enfant, pour être à son écoute et pour mieux connaître l'école, ceux qui y travaillent et, bref, tous ceux que l'enfant rencontre. C'est sans doute idéal, mais quand les parents le souhaitent et le peuvent. Or, aujourd'hui, la grande majorité des parents n'a pas le choix, ou pense en tout cas ne pas avoir le choix.
Alors, comment les parents peuvent-ils faire ?
Un équilibre est à trouver pour ne pas laisser sans cesse son enfant aux mains d'autres adultes, pour ne pas laisser les autres l'éduquer à sa place, et bien sûr pour les protéger d'éventuels prédateurs. Donc congé parental, travail à temps partiel, télétravail, diverses possibilités existent et sont à développer davantage pour être suffisamment présent pendant les quelques années où il est si essentiel pour l'enfant d'être protégé, mais aussi d'avoir des repères stables, une cohérence dans les choix éducatifs et un temps suffisant pour que lui soient transmis les valeurs auxquelles tiennent ses parents. Ceci dit, pour nourrir la réflexion de notre société sur ce qu'elle veut véritablement pour ses enfants, pour leur protection et pour leur avenir.
Merci Ludovine de La Recherche pour cette chronique. Je voudrais rester un petit peu avec vous quand même, parce que c'est un sujet qui est effectivement particulièrement important, c'est un sujet majeur. On voit bien tous les scandales qui peuvent arriver, je pense notamment à l'aide sociale à l'enfance, aux animateurs dans le périscolaire, au scandale des crèches. Finalement, on se rend compte que l'État est défaillant dans bien des domaines, mais comme vous le dites un petit peu en conclusion, le problème, c'est la société. Ce qui est, pardonnez-moi, enfin ce qui est très juste, ce qui est aussi une réponse de gauche quelque part, mais ce qui est aussi très juste, c'est-à-dire qu'on a l'impression que structurellement, la société n'est absolument plus organisée pour favoriser la famille.
Alors, il y a plusieurs dimensions. D'abord, la famille est irremplaçable, ça c'est tout à fait évident, c'est tout à fait clair, mais l'État, dont la mainmise est largement de gauche, qui estime que donc l'État peut tout faire, l'État croit qu'il peut remplacer la famille, et même une partie de ses dirigeants, suivant les époques, cherche à la déconstruire, puisqu'elle serait un lieu d'inégalité, d'injustice, etc. Et donc il y a une volonté de mainmise sur l'éducation des enfants. Également parce que on souhaite qu'il n'y ait pas de transmission des inégalités. Or, une famille, quand il y a un père et une mère, elle est forcément caractérisée par des inégalités hommes-femmes, et en l'occurrence par le patriarcat. Donc il faut déconstruire la famille, et il faut éduquer à la place des parents pour éviter cette transmission des inégalités. Cela était précédé d'un autre axe, qui lui aussi perdure, hein, bien sûr, qui est d'éviter la transmission, soyons très clairs, de valeurs chrétiennes, de valeurs, de traditionnelles, de valeurs qui ne conviennent pas à nos dirigeants. Alors, ça dépend certes desquelles et ça dépend de quelle époque, mais le sujet est celui-ci. Et l'État, dans sa toute-puissance, croit pouvoir remplacer la famille. Or, le fait est que, par nature, l'État est un monstre froid. L'État n'est pas... ce n'est même pas qu'il est inhumain. Il n'est pas humain. Et donc, les enfants, que ce soit à l'ASE ou ailleurs, passent d'un adulte à un autre... chacun n'est pas véritablement responsable et ne cesse de transmettre l'enfant au suivant.
C'est quelque chose dont on parlait avec Julie Solveig ce matin, qui a produit donc une enquête pour Ligne Droite sur le périscolaire parisien. Finalement, le souci dans le fond, c'est même pas l'État en soi, c'est le fait que les personnes qui y œuvrent font partie d'un système de déresponsabilisation permanent.
Oui, mais c'est tout à fait exact, avec un manque de contrôle, un manque de sérieux, avec beaucoup d'irresponsabilité dans la mesure où personne n'est responsable, parce que la responsabilité est collective, elle est très complexe, on le voit très bien dans l'affaire du périscolaire. Et du côté de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, là, comme dans beaucoup de pays, il y a des services, enfin comme dans la plupart des États, il y a des services de l'État qui cherchent, qui ont remplacé d'ailleurs ce qui était fait par les religieux pendant des siècles, et l'État vient recueillir des enfants dont les parents sont défaillants. Le problème et la question qui se pose, c'est pourquoi ces défaillances, ces dysfonctionnements familiaux sont-ils de plus en plus nombreux, de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est débordée par le nombre d'enfants, de très jeunes enfants, d'enfants et d'adolescents à recueillir, et l'ASE ne parvient plus au point d'en arriver à des dérives gravissimes. Là, on peut y voir deux phénomènes qui sont, un, la difficulté des parents à assumer leur rôle de parents, et en fait, des parents qui eux-mêmes n'ont pas été éduqués, et qui eux-mêmes ne sont pas en mesure de prendre en charge leurs enfants. Et puis le deuxième axe, c'est le recrutement des animateurs qui n'est pas fait avec la sécurité nécessaire, avec les contrôles nécessaires. Parce qu'il y a aussi une chose, vous voyez, si je prends une question qui est tout à fait différente, quoique celle de l'euthanasie. L'euthanasie et le suicide assisté, que veulent un certain nombre de politiques, là aussi, il s'agit de personnes très vulnérables. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Et dans la proposition de loi qui est envisagée, on fait comme s'il n'y avait aucun risque de dérive, aucun risque d'avoir affaire à tel ou tel membre du personnel qui est dans une dérive personnelle et dans une dérive morale, voire criminelle. Or, malheureusement, l'humain est humain.
En un mot, Ludovine de la Rochère.
Eh bien, en un mot, l'État ne peut pas remplacer la famille et l'éducation qui est donnée aux enfants sera ce qui leur permettra eux-mêmes d'être parents à leur tour. Et autrement dit, tout ce que peut faire l'État éventuellement, c'est soutenir la famille, c'est valoriser le rôle des parents et c'est ne pas chercher à remplacer la famille. Et cela, c'est gravissime. Ça ne peut pas fonctionner et c'est un sujet de réflexion pour les parents, pour les grands-parents, pour la société, sans culpabilité. Il y a vraiment une prise de recul à prendre à une époque où on peine à s'occuper des enfants parce qu'on manque de temps.
Merci Ludovine de la Rochère d'avoir été avec nous un peu plus longtemps que d'habitude ce matin. C'était un plaisir de vous recevoir et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, je reçois Jean Messia. Jean Messia, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour Alexandre, bonjour aux auditeurs.
Alors, aujourd'hui, nouveau sujet que vous souhaitiez évoquer, CNews est accusé de racisme.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai rédigé une tribune en ce sens qui va paraître ce matin sur le site de Valeurs Actuelles à 9h. Je trouve cette histoire ubuesque. Enfin, ubuesque qui n'est pas étonnante.
Peut-être rappeler les faits, peut-être d'abord, Jean-Messia.
Voilà, les faits, c'est que début mars, enfin à la mi-mars, un psychologue du nom de Jean Dorido s'exprime pour commenter la prise de pouvoir au sein de la ville de Saint-Denis de Bali Bagayoko, excusez-moi.
Oui.
Et donc, vous connaissez la polémique autour de cela, je pense que vous allez parler à votre antenne. Le nouveau maire de Saint-Denis, dans la foulée de son élection, a menacé de purger l'administration locale de tous les fonctionnaires qui ne sont pas d'accord avec son projet politique. Il a exprimé son souhait et sa volonté de désarmer la police municipale.
Il a aussi dit quelque chose d'assez fascinant. Il a dit que les gens, il est interrogé sur la gentrification, il a dit que les gens qui viendraient en Seine-Saint-Denis devraient s'adapter aux lois et aux coutumes locales.
Ah, c'est ça, en fait, il a adopté un mot, d'ailleurs, que la France a adopté pendant des siècles. Les gens qui viennent à Saint-Denis doivent participer à une communauté de destin avec les gens qui sont déjà installés. Alors, c'est bizarre parce que quand la France disait ça aux émigrés qui arrivaient, les mêmes disaient c'est raciste et c'est haineux et c'est pas respectueux des us et des coutumes et des cultures d'origine. Bon, j'en passe. Donc, tout ça fait que le psychologue Dorido sur l'antenne de CNews commence par parler de l'homo sapiens, fait une analyse un peu anthropologique, universelle, en parlant de la manière dont l'être humain, de manière générale, se comporte un peu comme un primate, dès lors qu'il y a un pouvoir.
Oui, c'est la logique tribale, etc.
La logique tribale, etc. Mais son propos était, encore une fois, tout à fait général, universel, qui s'applique à l'être humain par-delà ses différences de religion, de couleur de peau, etc. L'intéressé lui-même, d'ailleurs, Bali Bagayoko, n'a rien dit, n'a pas porté plainte, ne s'est pas fendu d'un tweet pour dire quelle honte, ce racisme, etc. Non, c'est l'extrême-gauche, en fait, et la France insoumise qui prennent ces déclarations et qui les font monter en épingle pour accuser CNews de racisme, de comparer Bali Bagayoko à un singe. Enfin, tous les raccourcis ont été utilisés pour faire monter la mayonnaise et exprimer et expliquer que la première chaîne d'info de France avait tenu en direct des propos racistes à l'égard d'un maire parce qu'il est noir. Bon, on ferait complète par la suite, parce que invité de Laurence Ferrari, on ferait fait également une analyse, si vous voulez, sur les mâles dominants, etc. Mais il expliquait en fait l'arrivée de ces nouveaux maires et leur volonté d'établir un peu leur autorité.
Mais attendez, Jean Messia, par exemple, sur ce que dit Michel Onfray, en l'occurrence sur ce premier psychologue, je vous rejoins tout à fait sur ce que dit Michel Onfray, il y a quand même de la provoque là-dedans, non ? Ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine façon, c'est vrai que même si le propos de fond, évidemment, on comprend tout à fait ce qui veut dire, on sait très bien que une comparaison d'une personne noire à un singe, en soi, c'est quand même loin d'être habile en termes de, en termes de provoque.
À supposer que vous ayez raison, mon cher Alexandre, est-ce que la provocation est punie par la loi ?
Ah non, mais c'est une autre, c'est un autre sujet, mais
Est-ce que, non, mais là, ce qui est, la polémique tourne autour du racisme. Il ne vous a pas échappé que le racisme n'est pas une opinion. Le racisme n'est pas une provocation.
Si, c'est une opinion, mais c'est une opinion délictuelle.
Oui, mais donc ce n'est pas une opinion de droit commun, on va dire, pour préciser les choses. Et donc à ce moment-là, c'est la loi qui est censée la sanctionner. La provocation n'est pas un délit. Le fait de choquer n'est pas un délit. Ou alors, nous ne sommes plus en démocratie. Je pense que la démocratie, c'est précisément si la liberté d'opinion et la liberté de parole doit se résumer à une seule idée, c'est bien l'idée d'avoir la liberté de choquer. Parce que si la liberté, c'est de dire que des poncifs et de réciter que ce que les gens veulent entendre, je dirais, dans une dictature, c'est pareil. Les gens peuvent dire ce que les gens veulent entendre. Donc non. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que...
On me fait dire aussi, pardon Jean Messia, que la provocation en soi peut être un délit si c'est de la provocation à la haine raciale, ce qui est vrai aussi.
Ah oui, mais c'est pas pareil. Sa provocation à la haine raciale, c'est, comment dirais-je, c'est d'intimer, comment dirais-je, des slogans qui incitent à la haine. C'est la provocation aussi, par exemple... j'adopte une provocation verbale, c'est pas forcément inciter à la haine raciale.
Oui,
je
oui
veux
bien
dire.
Sûr.
Voilà.
Non, mais c'est simplement pour préciser un petit peu, mais oui, on va vouloir en venir.
Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que tous ceux qui nous disent qu'on fait des amalgames, qu'on mélange tout, qu'on met tout le monde dans le même panier, dans le même sac, c'est eux qui font ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'extrême gauche, les intéressés eux-mêmes ne se sont pas plaints de racisme. Donc, qui les amalgame à des propos qui ne les concernent pas? C'est bien l'extrême gauche qui va dire « Ah, mais vous l'avez comparé à un singe ». Donc, en fait, c'est l'extrême gauche qui crée l'amalgame et qui traite, en quelque sorte, Bali Bagayoko de singe, puisque les intéressés, enfin, les auteurs de ces propos ne l'ont pas fait et que les intéressés ne l'ont pas pris pour eux. Vous savez, j'étais devant la cour d'appel de Paris cette semaine parce que, figurez-vous, que la LICRA a porté plainte pour des propos que j'avais tenus dans un meeting de Reconquête où j'avais dit que la France en avait marre d'accueillir des millions de chameliers polygames du 8e siècle et qu'on en avait marre, si vous voulez, d'être sommé de considérer comme Mokhtar Ben Couscous arrivé en France hier devait être considéré comme français, alors que des Français qui sont là depuis toujours devaient être considérés comme des immigrés. Eh bien, figurez-vous que la LICRA a porté plainte contre moi pour incitation, pour injure à caractère racial, donc m'accusant d'avoir insulté tous les musulmans et tous les maghrébins. Il n'y avait pas un seul maghrébin dans la salle, pas un seul musulman dans la salle. Donc, les musulmans et les maghrébins n'ont pas pris ça pour eux, mais la LICRA a amalgamé des propos qui ne visaient que des gens qui sont en sécession avec la République, avec tous les musulmans. Mais c'est le même mécanisme qui joue là. C'est-à-dire qu'on fait une analyse globale, les intéressés ne les prennent pas pour eux, parce que je pense que c'est des gens comme vous et moi, et que ce n'est pas parce qu'ils entendent quelque chose qui pourrait, dans certaines conditions, en tirant la ficelle, les impacter. Ils ne se sentent pas concernés. C'est toujours l'extrême gauche, les associations gauchistes, qui, en réalité, provoque de toutes pièces des affaires racistes et, ce faisant, provoque les amalgames qu'elles prétendent et qu'elles font ensuite métier de combattre.
Oui. D'une certaine façon.
Donc, pardon, je termine juste mon propos. Qu'est-ce qui est à rechercher? Parce qu'il n'y a évidemment pas de racisme, toute cette mayonnaise-là, c'est du flan, si vous voulez. Qu'est-ce qui est recherché à travers cette mousse médiatique? Parce que, évidemment, tous les médias, les grands médias, etc., ont relayé spontanément et immédiatement les grands politiques jusqu'au Premier ministre qui dit que le gouvernement va se porter partie civile par l'intermédiaire du préfet. Donc, toute cette mayonnaise, ce feu qui est allumé par l'extrême gauche et dont, une fois n'est pas coutume, le gouvernement se fait, comment dirais-je, le porte-voix, le porte-parole moisi, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? En fait, ça vient éteindre l'incendie qui s'est allumé avec l'arrivée de ces mères racisées et islamisées, ces images absolument ubuesques où l'on voit des Français être expropriés de leur propre territoire. On voit des mères blanches, femmes, socialistes, à qui il est reproché d'être des mécréantes, de ne pas être des musulmanes, d'être des femmes. Vous comprenez ? On voit des mères sortir parce que blanc, pas parce que c'est une défaite politique classique, sous les huées, sous protection policière, tellement. Et donc ça, évidemment, ça pouvait être un électrochoc qui aurait pu réveiller, et qui avait commencé à le faire, les Français, de leur longue sédation identitaire profonde et continue que tout un système leur administre depuis 50 ans, il fallait évidemment éteindre l'incendie.
Mais...
il fallait évidemment allumer un contre-feu qui vienne, comment dirais-je, faire oublier, araser, effacer ces images pour que les Français ne se réveillent pas, et encore pire, à une année d'élection présidentielle.
En fait, c'est dangereux. Jean Messier, il y a quand même, j'ai l'impression, un triple phénomène sur la question du racisme. C'est que, en réalité, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un petit peu la gauche qui le crée. Dans le sens, par trois moyens. D'abord, en important effectivement des populations de zones culturelles, ethnoculturelles différentes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est effectivement en créant des sortes, en surinterprétant quelque part énormément de propos pour les qualifier de racistes, et donc en créant des procès. Et ensuite, c'est quand même la gauche qui a fait revenir la question identitaire en France, dans au moins à grande échelle. C'est-à-dire que faut pas oublier que tout de même, toutes les discussions, vous avez employé vous-même le terme de racisé. Le terme de racisé, c'est pas un mot qui est inventé par l'extrême droite, c'est un mot qui est inventé par la gauche.
Bien sûr, mais vous savez, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, j'ai publié il y a quelques jours une tribune dans Frontières pour parler du retour des grands irrédentismes identitaires en Europe. Vous savez, la question des nationalités et des irrédentismes identitaires, on croyait que c'était une question du XXe siècle.
Alors, ça, c'est les anciennes minorités.
C'était une question du XXe siècle, c'était des minorités européennes liées à des découpages de traités, et on sait ce que ça a provoqué, puisque l'Europe des minorités, ça a été l'Europe de la guerre.
Ouais.
Bon, une fois cette question réglée de manière dramatique après 50 millions de morts, eh bien, la gauche a décidé de recréer une Europe des minorités, à sa façon.
Oui.
Une Europe des minorités, cette fois-ci, dans le sens vertical, c'est-à-dire du sud vers le nord. Et donc, naguère, on avait des poches de Sudètes, des poches d'Allemands de Posnanie en Pologne, des poches de Magyars en Roumanie. Donc tout ça, c'était des peuples cousins, des peuples proches, et on a vu ce que ça a donné.
Oui.
Aujourd'hui, les poches que nous avons en France, ce sont des poches d'Africains, de Maghrébins, de Pakistanais, d'Afghans, etc.
Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, et déjà, en plus des conflits avec le peuple de souche français, on observe aussi des conflits interethniques, c'est-à-dire qui sont soit liés à des territorialités, comme par exemple, je pense à la DZ Mafia contre la mafia Yoda, à Marseille, où là, en l'occurrence, c'est les Comoriens donc, contre les Algériens sur une guerre de territoire, mais il y a aussi des conflits, je pense notamment aux Kurdes contre les Turcs. Enfin, en fait, c'est des.
Oui, bien sûr.
Il y a des conflits interethniques qui sont tout à fait. Même d'ailleurs, on pourrait étendre ça d'une certaine façon à la question Palestine contre Israël. On voit qu'il y a quand même une importation. Des conflits ici en France, des conflits interethniques qui viennent d'ailleurs.
Bien sûr, c'est-à-dire que cette question des nationalités-là, cette question des identités-là, elle sera beaucoup plus incandescente que celle du XXe siècle, parce qu'il y a en réalité plusieurs irrédentismes. Il y a les irrédentismes de ces populations à l'égard de la France, parce qu'ils veulent évidemment être majoritaires et appliquer leurs droits et leur culture et leurs us sur leur territoire, mais il y a aussi ce que vous évoquez avec justesse. Il y a aussi les conflits, on va dire, horizontaux entre des cultures qui ne sont pas les nôtres et entre des peuples qui ne sont pas les nôtres. Donc, vous imaginez la poudrière que la France peut devenir si ces populations venaient à se généraliser. Donc, tout ça est extrêmement, à la vérité, extrêmement inquiétant. Et la gauche, si vous voulez, a une lourde responsabilité dans cette histoire. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle des conséquences induites de ces problèmes identitaires. Voilà. La gauche, en réalité, veut que les Français disparaissent, que petit à petit, ce qu'ils appellent la Nouvelle France, c'est en réalité une France racisée et islamisée.
Oui,
à chaque fois que vous entendez Nouvelle France, c'est ça qu'il faut entendre. Il n'y a pas d'autre mot.
Jean Messier, il y a aussi un deuxième sujet qu'on voulait aborder. C'est que, mais on l'oublie parfois, étant donné qu'on parle souvent de ces questions civilisationnelles avec vous, mais vous êtes économiste quand même. À l'origine, et vous vouliez parler aussi de la flambée des prix de l'essence, où là, on a l'impression qu'absolument personne n'a de solution, et peut-être qu'il n'y a au fait aucune solution quelque part, c'est-à-dire que le prix du litre est entre 2 et 3 euros selon les stations essence partout en France, et il s'avère que le moyen numéro 1, c'est d'avoir plus de dépenses de la part de l'État, le moyen numéro 2, c'est d'avoir moins de recettes de la part de l'État, et dans tous les cas, on a un État qui est déjà en voie de faillite. Donc, est-ce qu'il existe réellement une solution ?
Alors, je vais répondre à votre question, juste une petite insiste pour vous dire que si on parle des questions civilisationnelles, c'est parce que c'est des questions irréversibles, et donc ça, c'est des questions prioritaires. Entre 40 et 44, les gens qui parlaient de la France à la France, ils étaient immédiatement contestés par ceux qui voulaient parler du ravitaillement pour masquer la première question, qui était évidemment la question la plus grave. Cela étant dit, pour répondre à votre question sur l'essence, il y a deux points ce matin que je voulais évoquer. Le premier, c'est que je trouve quand même que l'attitude des pétroliers et des réseaux de distribution est une attitude dégueulasse. Et je pèse mes mots. Pour une raison simple, c'est que le carburant qui est distribué aujourd'hui, dans nos pompes, ce n'est pas un carburant qui a été acheté à 100 dollars ou à 120 dollars. C'est un carburant qui a été acheté à 50 dollars ou 60 dollars. Donc, en fait, il y a, si vous voulez, les pétroliers ont adapté leur prix à la pompe à des prix du baril aujourd'hui, mais auxquels ils n'ont pas acheté de l'essence. Donc, en réalité, les premiers profiteurs de guerre, ils sont là. Alors, je ne dis pas que par la suite, une fois qu'ils commenceront à acheter effectivement le baril à 100 ou 120 euros, ils ne répercutent pas cela dans les prix. Mais en fait, la première phase est la phase la plus importante et la plus critique pour eux, parce qu'ils savent très bien, si vous voulez, que c'est la fenêtre de tir. L'opinion est anesthésiée parce qu'elle entend partout que les prix augmentent.
Oui.
Et donc, ils s'engouffrent là-dedans pour pouvoir faire des super profits. Vous vous rendez compte d'avoir acheté un baril de pétrole à 50 dollars et de le vendre comme si vous l'avez acheté 120, vous imaginez le profit qui est fait derrière ?
Oui.
Bon, déjà, alors on n'a pas beaucoup de leviers.
Oui, disons que l'anticipation, l'anticipation leur profite quand même beaucoup à ces pétroliers. Mais il nous reste, et malheureusement, Jean-Messier, simplement, il nous reste que 2 minutes. Est-ce que vous pourriez, selon vous, aborder les solutions que peut mettre en place l'État ?
La seule solution, ça serait de faire comme les autres pays européens, c'est-à-dire d'aider, de subventionner le prix à la pompe, mais l'État est exsangue. Il est exsangue pourquoi ? Après avoir payé 14 milliards d'aides publiques au développement, après avoir payé 8 à 9 milliards pour l'Ukraine, après avoir, tenez-vous bien, cette année, augmenté de 3 milliards la contribution nette à l'Union européenne, il y a bien un moment où les Français, ils n'ont plus rien. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, que lorsqu'on a autant de moyens, lorsqu'on a distribué autant de dizaines de milliards d'euros, à l'extérieur, c'est quand même assez incroyable qu'au moment où la France en a besoin, quand la bise fut venue, il n'y a plus rien pour les Français. Parce que, vous comprenez, le président de la République est plus préoccupé du bien-être de l'Europe, voire du bien-être du monde, qu'il ne l'est en épargnant de l'argent pour les éventuelles crises.
En fait, ce que j'allais dire, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il nous reste une minute, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que en fait, le gouvernement est toujours dans la réaction avec des petites mesures par-ci par-là, mais dans le fond, il ne traite jamais les problèmes de fond.
Alors, il traite les problèmes de fond dans des réactions incroyablement importantes lorsqu'il s'agit de l'étranger. Quand il a fallu décaisser direct des milliards pour l'Ukraine, du jour au lendemain, on a trouvé une solution. Là, quand il s'agit de dégainer des milliards appartenant aux Français, parce que ce sont les Français qui… c'est pas Macron, si vous voulez, c'est pas le portefeuille de Macron et le portefeuille de l'État, ce sont les Français qui l'abondent. Donc, je veux dire, c'est quand même incroyable que ceux qui abondent le budget ne soient pas les premiers bénéficiaires et récipiendaires des libéralités de ce projet, de ce budget.
Oui.
On est chez les dingues. Donc aujourd'hui, après avoir dépensé l'argent des Français à l'étranger, face à cette crise pétrolière, des chocs pétroliers, puisque le prix du pétrole est le plus élevé depuis 1985, c'est pas rien, eh bien… le gouvernement français qui a tout dépensé pour l'autre, il n'a plus rien pour les nôtres.
Eh bien écoutez, encore une bonne formule avec laquelle vous concluez, Jean Messia. On restera là-dessus pour aujourd'hui et puis on vous dit à la semaine prochaine pour suivre l'actualité avec vous.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et pour cette chronique, comme chaque semaine, nous recevons Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Benjamin Blanchard, bonjour. Le Liban est toujours embourbé dans une guerre qui n'est pas la sienne.
Bonjour Alexandre de Galzin. Et oui, le président libanais Joseph Aoun ne cesse de le rappeler. La guerre en cours sur le sol libanais entre Israël et le Hezbollah n'est pas la guerre du Liban. D'ailleurs, les autorités israéliennes tiennent aussi ce discours. Nous ne sommes pas en guerre contre le Liban, mais contre le Hezbollah, je cite les autorités israéliennes. Il est vrai que si cette guerre se déroule sur le territoire libanais, elle n'a pas été décidée ni déclenchée par les autorités libanaises. Et les forces de sécurité libanaises n'en sont que spectateurs et non pas acteurs. Le président Joseph Aoun a bien sûr raison. Face à Israël, l'unique acteur de cette guerre est le Hezbollah. Longtemps perçu comme une force de résistance face à Israël, perçu régulièrement par une partie des Libanais comme un ennemi, un envahisseur et un occupant, le mouvement connaît depuis des années une perte de légitimité, y compris au sein de la communauté chiite de laquelle il est issu. Les Libanais lui reprochent pêle-mêle ses interventions à l'extérieur, comme par exemple en Syrie, en soutien du gouvernement de Bachar el-Assad, sa mainmise sur l'État, l'explosion du port de Beyrouth, qui est vraisemblablement due à un entrepôt illégal, à l'explosion d'un entrepôt illégal de produits explosifs, sa soumission à l'Iran, mais surtout le déclenchement de la précédente guerre de 2024 en soutien du Hamas, et bien sûr le déclenchement de la guerre actuelle sur ordre de l'Iran. Après le déclenchement de cette guerre par les tirs de roquettes du Hezbollah contre Israël, on a bien vu une perte de crédit politique du Hezbollah, avec la mise hors la loi de sa branche militaire par le Conseil des ministres, qui a d'ailleurs été votée par les ministres du Hamal, l'autre parti chiite, la condamnation du Hezbollah donc par son allié historique, le parti Hamal, du président de la Chambre Nabir Berri, et la libération de la parole contre le parti milice dans la population libanaise, y compris dans la population chiite.
Mais est-ce que justement la prolongation de la guerre et ses conséquences massives n'ont pas de l'effet inverse ?
Ben oui, en effet Alexandre, si le déclenchement de la guerre a été catastrophique pour le Hezbollah en termes politiques, la façon dont cette guerre est menée par Israël provoque l'inverse. La destruction méthodique des villages du Sud, le nombre de déplacés internes, plus d'un million, le nombre de morts, pratiquement 4000 et de blessés... 4000 blessés et le nombre de morts environ 1400, y compris des enfants. Et surtout l'invasion terrestre du pays. Alors pour l'instant, le gouvernement israélien ne parle que d'occupation temporaire, mais certains ministres que j'ai déjà abondamment cités dans les précédentes chroniques à cette antenne parlent, eux, d'annexion définitive. Tous ces éléments provoquent un effet absolument pas surprenant d'exaspération de la population qui se ressoude, pour une partie d'entre elles, et notamment les chiites, derrière le Hezbollah. Ce phénomène se voit également du côté du Hamal, qui semble avoir reformé le tandem chiite qu'il formait avec le Hezbollah et qui apparaît bien s'être reformé à peine dissous.
Donc, en plus de renforcer le Hezbollah, la guerre menée par Israël affaiblit grandement l'État libanais.
Ben oui, il est faux de dire que le Liban ne faisait rien pour respecter le cessez-le-feu conclu lors de la guerre de 2024. L'armée libanaise avait déployé plus de 10 000 soldats dans le sud du pays et avait réussi à récupérer un arsenal significatif d'environ 400 missiles et 10 000 obus au Hezbollah. Alors 10 000 soldats pour un pays comme le Liban, c'est pas rien. Je rappelle que c'est un pays de 5 millions d'habitants. Le Liban avait aussi fait acte de souveraineté en déclarant illégaux les gardiens de la Révolution et en expulsant de nombreux ressortissants iraniens. Alors c'était d'ailleurs via des vols vers la Russie, parce que forcément, il n'y a plus de vols vers l'Iran avec la guerre en cours. Plutôt que de l'encourager et de l'aider, ce qu'essaye d'ailleurs de faire actuellement la France en lui livrant des véhicules blindés de transport d'infanterie, la guerre menée par Israël contraint l'armée libanaise à se retirer du sud du pays. Le prétexte d'empêcher les tirs de roquettes du Hezbollah est d'ailleurs fallacieux selon le gouvernement libanais, car selon lui, les tirs ayant déclenché le conflit l'ont été depuis le nord du fleuve d'Italie et non depuis le sud, puisque l'armée libanaise déployée dans le sud empêchait l'action du Hezbollah. Le problème de ce retrait de l'armée libanaise du sud du pays, elle n'avait pas le choix, hein, elle n'allait pas se retrouver dans une zone occupée par l'armée israélienne. Qu'est-ce qui allait se passer ? Une guerre contre Israël, c'est absolument inenvisageable. C'est que des zones entières se retrouvent sans présence publique, sans protection, sans aide. Les habitants se retrouvent alors seuls, pris en étau entre les frappes et l'occupation israélienne, avec son cortège de victimes innocentes, et le Hezbollah, qui devient le seul interlocuteur pour leur sécurité et l'aide d'urgence. L'avenir du Liban s'inscrit une fois de plus en pointillé entre l'occupation israélienne d'une partie du pays, voire une possible annexion à moyen terme, plus d'un million de déplacés, principalement chiites, qui se sont déversés dans le reste du pays, déstabilisant des zones notamment chrétiennes et risquant à terme de bouleverser l'équilibre confessionnel du pays, et enfin un État toujours plus affaibli qui ne semble pas prêt de se reconstruire.
Merci beaucoup Benjamin Blanchard, vous terminez pile dans les temps, merci à vous et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour justement ce point sur la situation orientale et plus particulièrement libanaise.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour mon cher Alexandre.
Bonjour Gilles, vous avez retrouvé comment on allait au studio ?
Ne soyez pas persifleur.
Non, bon, alors.
Je suis toujours avec vous, vous le savez bien.
C'est vrai, vous ne nous lâchez jamais. Le point enquêté sur la fortune de Donald Trump.
Oui, alors c'est la sortie des magazines aujourd'hui. Hein. Je fais un petit focus sur les plus importants. Une enquête incroyable qui révèle que le président Trump n'hésite pas à monnayer ses apparitions pour son propre compte ou celui de ses proches, comme l'écrit François Miguet, envoyé spécial en Floride et en Californie pour Le Point. Projet immobilier sous sa marque, produit dérivé à son effigie, cadeaux offerts par des pays ou des entreprises, investissements en tout genre, spéculation sur les crypto-monnaies, bon, on est loin de la France hein, évidemment, le président aurait engrangé selon le New Yorker plus de 4 milliards de dollars au cours de ses deux mandats, du jamais vu. Pour deux politologues américains cités par Le Point, Trump a instrumentalisé la politique étrangère des États-Unis pour accroître sa fortune personnelle, asseoir son prestige et favoriser un cercle restreint de proches, d'amis et d'affidés. Alors la diplomatie américaine est désormais largement subordonnée aux intérêts privés du président et de ses obligés. Alors on le sait, hein, rappelle encore le journaliste que le président a renoncé à son salaire présidentiel. Vous savez combien il est le salaire d'un président aux États-Unis ?
Oui, je crois que c'est 400 000 dollars par an.
Ouais, 400 000 dollars par an, vous savez bien lire. Mais sa carrière politique est certainement la plus lucrative de l'histoire et depuis sa réélection, il accélère. Le Point publie une page sur sa cagnotte personnelle, dont voici quelques exemples. Critique du Bitcoin à l'origine, le leader MAGA a changé d'avis avec ses monnaies virtuelles ou son projet World Liberty Financial. Il a gagné plusieurs milliards en faisant passer notamment de 200 000 dollars à 1 million l'adhésion de son club privé Mar-a-Lago en Floride. J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps. Trump a fait exploser les bénéfices de l'établissement. Autre exemple, il pourra garder, après son départ de la Maison-Blanche, le luxueux Boeing 747-8 offert par le Qatar. Il vaudrait aujourd'hui entre 150 et 180 millions de dollars. Et je ne parle pas de la société de gestion 1789 logée à Palm Beach, fondée il y a 4 ans, qui ne compte que 8 associés, dont le fils du président Donald Trump Jr., qui a connu une croissance fulgurante et qui est spécialisé dans les investissements anti-woke. Elle pilote déjà près de 3 milliards de dollars d'actifs. Alors vous lirez toujours dans Le Point l'article d'Olivier Hubertali cette fois, quand le président fait danser les marchés, où l'on apprend qu'avant l'attaque contre l'Iran, le secrétaire à la défense aurait tenté d'investir dans des sociétés d'armement. Un scénario digne du film Le Loup de Wall Street. Alors vous lirez aussi un papier édifiant concernant les travaux engagés à Washington par Trump, comme la démolition, vous savez, de l'aile est de la Maison Blanche pour en reconstruire une nouvelle. Et comme le confie un observateur, ce que le président aime, c'est l'intérieur de Versailles, l'or et les miroirs. Voilà un petit côté Louis II de Bavière.
Oui, et puis un petit côté délit d'initié aussi. Hein. Il y a beaucoup de soupçons actuellement qui pèsent sur l'administration Trump là-dedans. Sorti aussi du magazine Causeur avec le philosophe Marcel Gauchet en une.
Oui, alors avec cet article aussi de Jonathan Sixou, Paris, c'est fini, dans lequel il écrit d'emblée « Au chaos Hidalgo succède le laminoir Grégoire. Le nouveau maire de Paris veut poursuivre la piétonisation à marche forcée, continuer d'accueillir la misère du monde et plus encore, bouleverser la sociologie de la capitale en imposant 40% de logements sociaux. Bienvenue à Paris banlieue. » Et le voilà qui ajoute « Cette émanation de la créature née de la cuisse de Bertrand Delanoë a désormais un boulevard végétalisé pour définitivement bousiller notre capitale. La tiers-mondisation heureuse est à l'ordre du jour. Les Parisiens feront des économies en réduisant leurs déchets grâce à la seconde main et à la réparation, avec l'objectif d'une ressource solidaire et d'ateliers de réparation dans le quartier. C'est Rio sous la mer et sans le soleil, ajoute Sixou. J'ai bien aimé cette formule. Mais au royaume du système D, le roi Grégoire assure qu'aux heures de pointe, les bus passeront toutes les 5 minutes et que certaines lignes de métro circuleront 24 heures sur 24. Ah. L'avenue Foch, qui vous est chère, mon cher Alexandre, le boulevard Saint-Germain, le périph, dérouleront des langues de verdure avec kiosques et pistes cyclables géantes. Et ces espaces, je cite, apaisés, seront idéaux pour planter des villages de tentes et manifester pour la Palestine de la mer au Jourdain. On croirait entendre un peu Benoît du Tertre. Et puis, nous dit encore le journaliste, Emmanuel Grégoire compte organiser chaque année une journée du lien pour faire grandir autour de chacun une communauté protectrice. Ça sonne un peu secte, mais sur les 365 jours de l'année, il en reste sûrement encore une ou deux qui n'ont pas leur fête ou leur journée à Neuneu. L'objectif pour les siècles à venir est aussi de lutter, je cite, contre ce fléau silencieux qu'est la solitude.
Toujours dans Causeur, on peut lire l'entretien donné par Marcel Gaucher à Elisabeth Lévy.
Oui, alors il déclare notamment « Un spectre hante l'Europe, ce n'est plus le communisme, c'est le populisme. C'est une démarche politique qui est susceptible de fédérer des gens de provenance idéologique éloignée. Prenez le RN en France, d'anciens nationalistes et d'anciens communistes convergent vers son électorat. Pour lui, il manque aujourd'hui une vraie réforme intellectuelle et morale, une réforme qui redonnerait leur place aux deux grands oubliés de l'univers néolibéral, l'histoire et la politique. Autrement dit, un héritage à partager et un instrument de la force démocratique. Il pourrait naître un patriotisme rationnel et ouvert qui redonnerait vie à la dimension du collectif. Alors je vous laisse méditer ces propos et vous les retrouverez dans Causeur.
Gilles, dessinez-moi un mouton.
Ah oui, bah oui, bah oui. Le Figaro fête l'anniversaire de la publication du Petit Prince de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, écrit Mohamed, d'ailleurs c'est le 6 avril, c'est pas le 2 avril l'anniversaire de la publication, Mohamed Hassaoui écrit « Le Petit Prince fête ses 80 ans et il n'a jamais été aussi fringant et actif, c'est une étoile qui ne s'éteint jamais ». Alors les chiffres donnent le tournis, on les connaît, hein, c'est 18 millions d'exemplaires vendus en France depuis 1946, ça c'est la source de Gallimard, il est traduit en 650 langues et dialectes, loin devant Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, les contes d'Andersen et Don Quichotte. Et c'est l'ouvrage français de fiction le plus traduit au monde.
Oui.
C'est un conte, hein, tout simplement. N'attendez pas Saint-Exupéry. Son livre a failli être refusé, vous le savez. Et Le Petit Prince suscite vraiment l'intérêt des artistes. Orson Welles avait envisagé un temps de l'adapter avec Walt Disney. Le projet n'aboutira pas. Mais il témoigne de l'attrait immédiat de l'œuvre. Il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres. Et ce 2 avril, en plus de cette nouveauté Gallimard, Gallimard réédite une édition collector spéciale anniversaire augmentée d'un long texte très instructif, Naissance du Petit Prince, signé Alban Cerisier, qui a préfacé le volume quarto, vous savez, cette fameuse grande collection chez Gallimard, Du vent, du sable et des étoiles, rassemblant les œuvres de l'écrivain aviateur et quelques-uns de ses premiers contes de jeunesse inédits, le manuscrit du Petit Prince, facsimilé de l'original, paraît également à cette occasion, ainsi que le conte musical, un livre CD composé par Balthazar Pouillou, qui reste une adaptation musicale inédite. Donc c'est à lire dans le Figaro. Moi j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, d'écouter la voix de Gérard Philippe
raconter. Oui.
Extraordinaire.
Oui. Zone libre ?
Zone libre.
Oh. Zone libre.
Superbe. Alors moi je voudrais revenir sur un point quand même. Je ne pense pas être tout à fait d'accord avec Jonathan Sixou. Dans le sens où la piétonnisation, dans le fond, c'est quand même plutôt une bonne chose.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que plus on piétonnise, plus il y a de bruit. D'ailleurs, vous avez compris que dans les villes... en province, demandez aux habitants qui résident dans les villes piétonnières, ils fuient parce que vous avez les terrasses, vous avez l'agitation qui fait que, quand il y a des voitures, elles se garent, pointent à la ligne et vous passez. En fait, la piétonnisation, c'est un masque. Vous savez très bien qu'elle a piétonisé tout simplement pour réduire les places de parking, pour qu'il y ait de moins en moins de voitures. En fait, elle a pris... elle a pris le taureau par les cornes d'une certaine manière. Elle a végétalisé. Moi, je le vois dans mon quartier.
Oui, mais regardez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu sur d'autres continents, aux États-Unis, par exemple, enfin, en Amérique, etc.
Oui, mais là-bas, ils ont des parkings souterrains.
Mais,
non,
mais attendez, là-bas, je suis désolé, mais les villes de voitures, c'est, et même dans les grandes capitales, certaines grandes capitales européennes, c'est atroce. C'est en fait, il faut marcher. Et Paris est une ville d'une densité formidable et d'une faible surface qui est quand même assez adaptée en fait, à la piétonnisation, au vélo ou alors au transport en commun.
Adaptée, non, elle a été adaptée. Faut pas... Alors, y a deux choses. Il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a été entièrement redessinée par, par Haussmann. Haussmann avait tout vu sauf une chose, c'est évidemment la fin des attelages et des chevaux. Donc il n'y a pas de parking, il n'y avait pas de parking souterrain évidemment, il y avait des portes cochères, vous aviez des lieux pour garer les chevaux. Donc on a réinterprété Paris en essayant d'augmenter beaucoup de parking, des parkings souterrains, etc. Mais le grand problème à Paris, c'est que Madame Hidalgo a voulu mettre des vélos. Bon, ça n'a pas très très bien marché.
Pardon, mais il y a quand même beaucoup d'utilisateurs.
Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs, mais je veux dire, les Vélib, etc., ce n'est pas toujours très au point par rapport à d'autres villes.
Moi-même, en utilisant, j'avoue que ça reste un peu lacunaire.
Mais par exemple, il y a des choses quand même aberrantes. Et ce que voulait corriger Sarah Knafo, notamment, c'était cette fameuse rue de Rivoli, qui est un des axes fondamentaux de Paris, qui a été complètement privé de voitures et qui fait non seulement que ça bloque le commerce et puis ensuite ça manque de fluidité pour les embouteillages.
Oui, c'est sûr que ça c'est dans des endroits.
Et puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, mais ça c'est Bertrand Delanoë qui a été responsable, c'est l'abandon des voies express rive droite et rive gauche. Moi qui ai pris longtemps un scooter, c'est la mort c'est horrible quoi. Je veux dire, aujourd'hui cet axe permettait d'aller jusqu'à la gare de Lyon, de pas rater vos trains. Aujourd'hui vous êtes complètement bloqué et vous avez cette voie qui est livrée à elle-même pour quelques piétons, mais qui n'apporte strictement rien. Je veux dire,
on peut
marcher sur les quais sans passer par cette voie express.
Mais attendez, les quais, ils sont quand même assez remplis quasiment toute l'année.
On les a remplis, mais enfin, je veux dire, on aurait pu laisser la voie rive droite, ça aurait été beaucoup mieux, je vous assure, pour les chauffeurs de taxi, comme pour les automobilistes. Mais enfin, de toute façon, c'est une ville qui... Et Grégoire veut chasser de toute façon les voitures, donc le problème ne se pose pas.
Bah écoutez, Gilles, sans doute qu'on reprendra ce grand débat une autre fois, mais c'est vrai que sujet intéressant aussi à traiter. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Mais je vous en prie.
Et puis, chers auditeurs, c'est la fin du direct sur X et sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin, de l'avoir suivi, d'avoir parlé dans le chat. Merci d'avoir échangé avec nous, de nous avoir été fidèles une matinée de plus. Mais vous pouvez même augmenter votre fidélité, c'est pas merveilleux ça?
Eh bien, pour augmenter votre fidélité, je vous invite à nous faire des dons et des dons en ligne par exemple en vous rendant sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud, et tout de suite chers auditeurs, nous écoutons Charles-Henri Gallois qui nous parle des drapeaux européens retirés des mairies RN et d'Edouard Philippe.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien écoutez, nous allons parler des drapeaux européens retirés des mairies du Rassemblement National. Nous allons aussi un petit peu évoquer le coup de com' d'Edouard Philippe, et ça ce sera avec Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois.
Bonjour Alexandre.
Alors vous êtes, je rappelle, président de Reprenant le Contrôle, vous êtes aussi le conseiller économique de Jordan Bardella et l'auteur des Illusions économiques de l'Union Européenne, entre autres ouvrages. Alors j'ai appris... l'arrivée à la tête de certaines mairies de maires du Rassemblement National, qu'il n'était pas obligatoire du tout d'avoir des drapeaux européens en haut de sa mairie. Effectivement, quelques maires RN l'ont retiré.
Bah, pour prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, moi ça m'étonne en réalité que ça ait généré une telle polémique, essentiellement d'ailleurs de la part des macronistes et de certains médias. Bon, une fois qu'on a dit ça, enfin, je veux dire, ça sent la panique morale, et même parfois on a l'impression d'avoir une sorte de fanatisme qui tend jusqu'à un comportement sectaire. J'en veux pour preuve une réaction complètement délirante de Jean-Noël Barrot, qui est quand même à la tête de la diplomatie française, À l'heure où le monde est à feu et à sang avec l'Iran et que nos compatriotes n'arrivent même plus à faire le plein d'essence du fait des conséquences de cette guerre, je pense qu'il a peut-être mieux à faire que de disserter sur le drapeau européen quand on est dans une telle crise. Maintenant, si on veut aller effectivement sur le fond du dossier, ces drapeaux-là, je veux dire, c'est un scoop pour personne. Le Rassemblement national se définit lui-même comme un parti patriote et souverainiste. Mmh. Et les mairies RN, que ce soit Beaucaire ou Fréjus, n'ont pas de drapeau européen. Mmh. Pour la simple et bonne raison, déjà, vous l'avez rappelé, que ce n'est pas une obligation légale. Et heureusement, je veux dire, la France est membre de 190 organisations internationales. Si on devait mettre les 190 drapeaux sur le fronton des mairies, ça en ferait quand même. Et je rappelle aussi, parce que ceux qui nous expliquent, regardez, le RN enlève les drapeaux, c'est la preuve qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, etc. Il faudrait peut-être redescendre. Il y a plein de pays européens qui sont membres de l'Union européenne, dans lesquels vous n'avez pas de drapeau européen sur les mairies. Mmh. C'est le cas des pays scandinaves, c'est le cas de la Pologne, même dans la plupart des cas aussi en Allemagne, ils ne le mettent pas. Et donc ça montre bien qu'il y a une dimension complètement sectaire, et avec des arguments d'ailleurs pour critiquer ça, qui ne tiennent absolument pas la route. Vous avez certainement vu passer ça. On nous explique, alors il y a notamment deux cas, que M. Barthès, qui est maire de Carcassonne, ouais. Mme Muti, qui est maire de Canoës, on nous dit que c'est un scandale qu'ils aient retiré le drapeau de l'Union européenne parce que la ville de Carcassonne a reçu des fonds de l'Union européenne et parce que lui-même, étant agriculteur, il a reçu des fonds de la PAC. Quant à Mme Muti, elle a fait un séjour Erasmus. Et en fait, c'est quoi ces arguments complètement bidons ? Erasmus, je rappelle qu'Erasmus, c'est avant tout un échange, des échanges étudiants. Erasmus, sinon, c'est une bourse. Les échanges étudiants, c'est peut-être un scoop, mais en fait, ils existaient avant l'Union européenne. Et ils existent hors du périmètre de l'Union européenne. Je veux dire, il n'y a aucun jeune Français qui se dit « Je ne vais pas aller aux États-Unis, en Australie, parce que ce n'est pas Erasmus. » Donc, il faudrait déjà redescendre. Et pour les fonds européens, du maire général, et pas que Erasmus, je rappelle aussi que la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne. Chaque année, on verse à l'Union européenne, bon an, mal an, à peu près 10 milliards d'euros de plus que ce que l'on reçoit. Mmh. Donc, c'est-à-dire que les fonds européens, c'est de l'argent français dont nous n'avons pas la libre utilisation, puisque c'est Bruxelles qui décide de l'emploi de ces fonds, et dont on nous pique 40%. C'est un peu comme si je vous donnais 100 euros, vous m'en rendez 60 en me disant en plus, bah moi je voulais acheter de la viande rouge, vous me dites non, vous devez acheter de la salade, vous m'en rendez 60 et je dois vous dire merci. Mais en fait, c'est ça, donc il faut arrêter. Je veux dire, les fonds européens, la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne depuis 2000, c'est 180 milliards d'euros. Mmh. Elle ne fait que s'accroître. On a encore augmenté de 6 milliards d'euros cette année la contribution au budget de l'Union européenne. 6 milliards d'euros dont on aurait bien besoin pour baisser justement les taxes sur les carburants. Et je dis que ça s'accélère depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. La contribution nette de la France au budget de l'Union européenne, c'est 90 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes absolument colossales. Et l'autre argument que j'ai entendu, qui est pour le moins bidon, c'est de nous dire: vous ne regardez que la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Il y a le marché commun. Mais personne n'a dit qu'on voulait sortir du marché commun de l'Union européenne. Et la contribution budgétaire n'a strictement rien à voir avec l'appartenance au marché unique. Parce que, je veux dire, il y a des pays qui sont contributeurs nets, d'autres qui sont bénéficiaires nets. Et même cet argument, en fait, est complètement bidon. Pourquoi ? Il s'appuie sur une étude sortie par les macronistes, basée sur des chiffres de la Commission européenne très évidemment objective, oui, qui expliquait que la France tirait 124 milliards d'euros du bénéfice d'appartenance au marché commun. Bon, c'est vraiment oui-oui qu'on a l'impression du retour Ségolène Royal 2017, relation gagnant-gagnant, en fait tout le monde y gagne. Oui. C'est oui-oui, donc on fait du libre-échange mondial, maintenant tout le monde y gagne. La réalité, c'est quoi ? Comment vous pouvez mesurer si vous gagnez ou non à l'appartenance d'un marché ? C'est la balance commerciale. Mmh. Et la balance commerciale, si vous prenez la moyenne du solde commercial de la France avec les autres pays de l'Union européenne entre 2017 et 2024, on a un déficit de 44 milliards d'euros.
Oui, bien sûr.
Donc, ces gens qui vous expliquent, alors qu'on a un déficit commercial de 44 milliards d'euros en moyenne avec les autres pays membres de l'Union européenne, qu'on gagnerait 124 milliards à l'appartenance au marché, en fait, c'est peut-être vrai dans leur tête. Mmh. Dans la réalité, ça n'existe pas.
Oui, et alors, surtout que ce qui est fascinant, c'est que, comme on l'a dit, quand même, il n'y a rien d'obligatoire, en plus, encore une fois, à mettre... Bien sûr que c'est-à-dire que ce n'est pas un acte illégal. Comme... Ça peut arriver que certains maires décident, par exemple, il y a eu 6 vaches qui ont été inscrites dans une école publique récemment pour protester contre la fermeture des classes, pour remplir le nombre d'élèves. Ça arrive qu'il y ait des petites actions comme ça de certains maires. Là, en l'occurrence, c'est complètement légal. Et ce qui est assez fascinant, d'ailleurs... C'est que ça veut dire que, comme dans tout, quasiment toutes les mairies de France, il y a un drapeau européen. Ça veut dire qu'en fait, par volontarisme, il y a eu quand même une sorte, on va dire, d'état profond. Alors le terme est peut-être un petit peu fort, mais européiste, ou en tout cas une habitude européiste qui s'est mise en place un petit peu dans tout le pays sur ces 50 dernières années. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a une légère opposition à ça. Et pour le coup, on sent que ça les fait... pour le coup, ça les fait quasiment tous hurler, surtout au centre, à droite. Enfin, on a l'impression qu'ils sont sous le choc.
Moi, ce qui m'étonne, j'ai envie de vous dire, c'est que les mêmes qui poussent des cris d'orfraie parce qu'il y a un drapeau de l'Union européenne qui, encore une fois, n'a aucune obligation légale à être là, je ne les ai pas entendus quand le maire de Bastia a retiré son écharpe tricolore. Je ne les ai pas entendus quand un élu de la France insoumise, je crois que c'était à Villiers-sur-Marne, ne s'est pas levé pendant la Marseillaise. Quand toute l'opposition à Hénin Beaumont ne s'est pas levée, quand il y avait la Marseillaise, je ne les ai pas entendus. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont la France un petit peu honteuse, ces gens-là, mais que dès qu'on touche au drapeau de l'Union européenne, là, ils sont complètement hystériques. Mmh. Et c'est d'autant plus vrai, parce qu'il n'y a pas d'obligation légale, c'est que la seule obligation légale, c'est le 9 mai, le jour de la Journée de l'Europe, de mettre un drapeau de l'Union européenne. Les 364 autres jours de l'année, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ajoute aussi que dans la Constitution française, on ne reconnaît qu'un seul drapeau, et heureusement, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Et surtout, il y a certaines personnes qui ont quand même osé dire que c'était d'une violence inouïe d'enlever ces drapeaux. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être plutôt l'inverse, parce que je rappelle que ces emblèmes européens, que ce soit l'hymne et le drapeau, n'avaient aucune existence institutionnelle, et n'ont toujours pas, parce qu'ils ont voulu l'institutionnaliser lors du fameux traité pour une constitution de l'Union européenne en 2005, vote qui a été rejeté par les Français. Et donc je pense que la violence, c'est plutôt d'avoir imposé ce drapeau qui a été rejeté par référendum par les Français. La véritable violence, c'est ça. Parce que qu'on le veuille ou non, l'extase devant l'Union européenne, ça reste une opinion politique. Et je veux dire, on n'a pas, de la même manière qu'on n'a pas affiché les drapeaux étrangers sur le fronton des mairies, on n'a pas affiché tous les drapeaux des organisations internationales avec lesquelles on existe, et d'autant plus quand il y a une volonté militante, comme c'est le cas là, au niveau de l'Union européenne. Donc je veux dire, c'est vraiment une fausse polémique, et on fait des faux procès d'intention en réalité au RN.
Alors pour le coup, le RN, selon, à en croire donc les médias ces derniers jours, c'est un parti qui tremble de peur. Et ça, c'est le deuxième sujet qu'on voulait aborder, un parti qui tremble de peur devant Édouard Philippe. Parce qu'effectivement, un sondage est sorti dans lequel on voyait que Jordan Bardella était très loin devant, quand même, au premier tour, très loin devant tous les autres candidats, et au second tour, gagnerait face à tout le monde, sauf Édouard Philippe. Et alors là, je voudrais peut-être, Charles-Marie Gallois, c'est le moment de vous confier sur, effectivement, la peur d'Édouard Philippe qui doit régner au Rassemblement National.
Personnellement, il ne me fait pas très peur. Il ne me fait pas très peur pour la simple et bonne raison... Je ne pense pas que ça soit un très bon candidat, et surtout, il a un bilan catastrophique. C'est pas très simple de vendre un poisson qui n'est pas frais. Et en l'occurrence, Édouard Philippe, il a un bilan. Il a un bilan qui est... C'est l'homme quand même des ZFE, DPE, ZAN, donc des normes complètement aberrantes pour les Français. C'est l'homme des 80 km/h. C'est l'homme qui a participé au saccage de la filière nucléaire comme jamais. Il a confirmé en tant que Premier ministre la fermeture de Fessenheim. Il avait confirmé d'ailleurs la fermeture de 14 réacteurs nucléaires français, donc une aberration énergétique. Et celui qui se présente d'ailleurs comme un bon gestionnaire... Il faut rappeler que même quand il était Premier ministre, où il nous dit que la situation financière était meilleure, quand vous comparez aux pays européens entre 2017 et 2020, la France a déjà, à l'époque, le pire bilan économique de l'Union européenne sur les principaux indicateurs. Et sur le reste, en fait, il ne faut pas se leurrer. Évidemment que Édouard Philippe va chercher à se détacher du bilan d'Emmanuel Macron, mais Édouard Philippe, c'est le président d'Horizon. Mmh. Et Horizon, c'est un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale et qui a voté et validé tous les budgets. Donc Édouard Philippe, il est comptable, comme tous les macronistes, des 1260 milliards d'euros de dette, de dépenses publiques annuelles qui ont augmenté de plus de 400 milliards d'euros depuis 2017 et du bilan économique d'Emmanuel Macron qui est encore une fois le pire d'Europe et sans doute le pire de l'histoire de la Ve République. Donc Édouard Philippe sait tout ça et il y a surtout un élément, je pense, dont on a peu parlé, qui à mon sens est décisif et comptez sur moi pour le marteler. Surtout qu'Édouard Philippe veut être comme celui qui va transformer la France, la réformer.
Il est quand même très apprécié des Français, Charles Gallois, c'est-à-dire qu'il a quand même une cote de popularité qui tourne autour des 40-45%. C'est quand même...
Écoutez, moi je parle souvent aux gens, j'ai rarement entendu, mais j'ai même jamais entendu un désir d'Édouard Philippe. Mmh. C'est pareil, là il va nous faire le coup de la fermeté migratoire. Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, l'immigration a continué à augmenter, on battait les records d'immigration à l'époque, même si ça a encore augmenté depuis. Et sous Édouard Philippe, vous avez trois fois plus d'immigration que sous Lionel Jospin. Donc c'est pas ce monsieur qui va nous donner des leçons de fermeté. Et d'ailleurs, j'ai lu un article dans le Figaro où il expliquait, en fait, c'est la même rengaine que la gauche et que les macronistes, que la France, du fait de sa démographie, avait besoin d'immigration, oui, de travail, etc. Je rappelle à ce monsieur qu'on a quand même 6 millions de chômeurs en France, si vous prenez toutes les catégories, que les visas de travail, c'est 50 000 visas sur 500 000 personnes qui viennent en France, donc on n'a pas une immigration de travail et qu'on n'a pas besoin. Et enfin, l'argument décisif dont je voulais parler, c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Édouard Philippe, du fait d'appartenir au Bloc central, et le Bloc central n'a absolument aucune chance, aucune probabilité, je le maintiens, et tous les sondages le montrent, il n'a aucune probabilité d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale après, avec les élections législatives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si vous votez pour Édouard Philippe, c'est la garantie de l'immobilisme et de la paralysie et d'avoir la même chien-lit qu'on a eu depuis 2024. C'est-à-dire que même la gauche unie aux législatives a plus de probabilité d'avoir une majorité absolue que Édouard Philippe. Et en fait, la seule force politique, que vous le vouliez ou non, qui peut débloquer le pays, mettre en œuvre sa politique, c'est le Rassemblement National, parce que c'est le seul parti, non seulement qui peut gagner l'élection présidentielle, mais qui peut avoir, et qui a même toutes les probabilités, d'avoir une majorité absolue derrière. Tous les autres cas de figure, en particulier un candidat du Bloc central, il faut bien que leurs électeurs soient conscients de ça. Oui. Si vous votez pour Édouard Philippe, vous votez pour la chienlit, la paralysie et l'immobilisme du pays. Et ça, c'est une réalité. Évidemment, il faudra le marteler matin, midi et soir.
C'est effectivement Édouard Philippe, Gabriel Attal, il y en a, enfin, tous ceux qui veulent se présenter dans tous les cas. Mais on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Charles-Henri Gallois, d'avoir été avec nous ce matin pour ces deux sujets. Et puis, on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Merci chers auditeurs d'avoir suivi Ligne Droite ce matin, comme vous le faites si souvent, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Simplement, on ne va pas vous laisser partir comme ça.
Si vous souhaitez soutenir Radio Courtoisie d'un point de vue financier, eh bien, je vous invite à nous faire des dons en ligne sur cette adresse soutenir.rc.fr. ou encore à envoyer vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.
Très bien. Et alors, au-delà de ce message très important qu'il faut nous donner, quel est le programme du jour?
Dans un instant, à 10h, Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. À midi, le Libre Journal du Cinéma, dirigé en direct par Philippe-Henri Rambaud, Chinatown, histoire et analyse d'un chef-d'œuvre. À 14h, en direct également, La Tête hors de l'eau, dirigé par Catherine Rouvier. À 17h, Sorsum Corda de l'abbé Mathieu Raffray. À 17h30, en direct, Restons Courtois. Émission dirigée ce soir par Marc Hainaut et à suivre également en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. 19h30, le libre journal de Chrétienté dirigé par Guillaume de Tannouarn. Célébrer la Pâque 2026 et peut-on faire un premier bilan de la guerre au Proche-Orient? Et puis enfin ce soir à 21h30, un document d'archives de Radio Courtoisie. Libre journal de la France profonde, dirigé par Thibaut Dechasset le 21 août 2025. Fantasme transhumaniste autour de l'intelligence artificielle et promenade dans le Paris religieux, la basilique Sainte-Jeanne d'Arc de Paris.
Merci beaucoup Arnaud et moi j'aurai plaisir de vous retrouver demain, non pas pour animer la matinale, mais du moins pour ma chronique.
À demain Alexandre.
À demain.